Merci pour cette troisième et dernière présentation. On a eu une gestion du temps qui était fabuleuse puisque vous avez tous dépassé pareil. Bravo.
Cool.
Donc il y aura un peu moins de temps pour les questions. Ça va dépendre aussi de votre appétit puisque derrière il y a donc le repas en commun.
Tu veux que je ferme le diapo de réponse ?
Est-ce que ça vous gêne d'avoir le diapo derrière ou comme ça vous pouvez avoir un peu de... Bon, moi pour faire la transition avec la salle et vous laisser poser vos questions le plus vite possible, j'avais d'abord une... je voulais repartir de votre présentation à toutes les deux, où c'est intéressant parce que ça nous permet, nous chercheurs, de se retrouver dans la position d'enquêter, puisqu'on fait partie de ces collectifs, et nous aussi on a besoin de réflexivité, quoi. Donc ça permet de penser un peu cette contribution de la recherche comme plusieurs niveaux de réflexivité enchâssés. Et donc ce type de travaux, il nous permet, nous, de reconsidérer aussi la manière dont on intervient dans ces espaces-là, d'être plus conscient potentiellement des non-dits ou des choses qu'on ignore dans les discussions. Donc c'est assez intéressant. Et donc pour faire finalement la dimension un peu réflexive sur les contributions des caisses et les impacts des caisses sur les filières alimentaires, notamment d'un point de vue de l'écologisation de ces dernières, moi il me semble que il y a une question, c'est d'essayer de voir comment ce modèle-là qui est la caisse de l'alimentation, qui n'est pas donc la SSA, qui est quelque chose qui s'en inspire, comment on fait autre chose que le répliquer sur une modalité légèrement différente de territoire en territoire, quoi. Et comment on essaye de peut-être penser le fait d'aller plus loin, notamment dans cette direction, mais peut-être pas exclusivement dans la direction de l'écologisation. Et cette question d'aller plus loin, ça permet de penser aussi l'hétérogénéité qu'il y a inhérente au sein de ce dispositif de la caisse, et notamment dans la relation avec les filières. Et il y a des éléments qui sont déjà en place et qu'on peut essayer d'approfondir. Par exemple, cette question de, moi et les collègues, on appelle ça donc la dimension de labellisation. Est-ce qu'on cherche à approfondir ça? Et ça, c'était mentionné par exemple dans la question de la publicité. Est-ce qu'on commence à étendre la visibilité du fait que quelqu'un est conventionné pour en faire quelque chose de public qui pourrait même servir à guider les choix des gens qui ne sont pas au sein des caisses? Est-ce qu'on cherche plutôt à avancer dans la direction du moyen de paiement qui aujourd'hui permet de contrôler la demande et pourrait à l'avenir aussi permettre de recevoir des finances de la part des points de vente participants, de recevoir aussi des contributions de la part des entreprises qui substitueraient par exemple le ticket restaurant à une nouvelle carte de l'alimentation? Toutes ces questions-là, elles sont à trancher. Et elles sont intéressantes parce que s'étendre, aller plus loin, c'est aussi potentiellement prendre le risque d'empiéter sur d'autres territoires, sur l'action d'autres acteurs, et donc potentiellement d'un aspect conflictuel qui a anticipé aussi. À ce titre-là, moi il me semble qu'il y a deux dimensions dont on parle rarement et qui sont potentiellement des choses qui sont à l'intérieur de l'idéal du modèle de sécurité sociale de l'alimentation, c'est la question des tarifs. Est-ce qu'on essaye de fixer des tarifs minimum ou des tarifs maximum? Est-ce qu'on essaye de rentrer dans cette fabrique du prix ou pas? Un autre élément, c'est la question des investissements. Est-ce qu'on essaye de se doter d'outils pour construire des ressources propres et intervenir dans les besoins de financement des acteurs économiques locaux ou pas locaux? Et ou alors, est-ce qu'on essaye de peser sur les investissements publics qui existent déjà? Bon, voilà. Un certain nombre de pistes qui n'impliquent pas les mêmes conflictualités, qui n'impliquent pas les mêmes directions, qui n'impliquent pas les mêmes outils. Certaines sont plus conflictuelles que d'autres, mais je pense que c'est intéressant de se poser ces questions-là. Et voilà, les présentations dans leur diversité, je pense qu'elles nous appellent un peu à questionner ces différentes choses. Bon, voilà, je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle ou si vous voulez un peu vous positionner là-dessus directement.
Moi, j'avais une question pour déjà merci pour les différentes présentations. J'avais une question pour Julien.
sur la question de la monnaie locale, donc Monéco. Et parce qu'on se pose des questions similaires à Strasbourg où la monnaie locale fait partie du comité de pilotage. Et je voulais savoir, est-ce que vous avez conventionné d'office les lieux de vente alimentaire qui étaient déjà dans le réseau? Si oui, enfin voilà, ça m'intéresse parce qu'en fait à Strasbourg, finalement on ne va pas utiliser la monnaie locale. En tout cas, en l'état actuel, on ne l'utilise pas, ça a été décidé, peut-être que ça évoluera. Mais c'est un sujet qui peut nous intéresser aussi.
Ouais, et moi je suis pas en question, mais c'est une réponse ou quelque chose pour aborder l'effet des les producteurs ou les acteurs économiques sont pas ils sont pas dans la gouvernance ou ils participent pas assez dans la gouvernance des différentes caisses. Et j'allais dire quelque chose qui peut blesser des gens, je préviens, j'ai vu cela un système et les comportements qui les reproduit, c'est pas des personnes en particulier, je veux que ce soit clair. Et ça reste parce que dans les réunions, les organes de gouvernance participent à la reproduction d'un système de classes, un système dominant. Au fait, ça vaut pour les classes populaires et pour les classes paysannes dans trois rapports. D'abord, les rapports à l'argent. Venir depuis que les femmes font de la campagne ou les deux heures où on habite à Bordeaux n'a pas les mêmes coûts que prendre les trams, d'un côté. D'un autre côté, ça vaut spécialement pour les classes populaires, l'ajout en temps de militer ou de participer à ces organes de gouvernance dépend de l'amplitude horaire de notre vie quotidienne, en fait. Et l'amplitude horaire de quelqu'un qui fait les ménages, d'un chauffeur de bus ou d'un paysan, sont très différentes de quelqu'un qui travaille de 9h à 18h. Et la troisième, c'est une reproduction dans les discussions des façons de faire, des mots qu'on utilise, des mécanismes de travail, des logiciels, des différents trucs qui composent ces travails, qui font plus facile pour certaines personnes que d'autres de se les approprier, au fait. Et pour moi, il faut que ce type d'initiative arrête d'essayer d'attendre que les pouvoirs publics ou les systèmes changent tout ça. On aurait des réponses potentielles parmi les groupes en interne. Si par exemple, chaque fois qu'il y a une réunion, on décide que tout le monde cotise pour financer l'ensemble des trajets de tous les gens qui participent, les gens se rendront compte que pour certains, il y a plus de coûts que d'autres. Et pour tout le monde, ça va coûter la même chose. Tout le monde aura contribué, mais en fonction de combien ça coûte pour tout le monde, quoi. Pour les temps, c'est pareil. Si dans les réunions, on décide que les temps de tout le monde vaut la même chose, et si chacun fait les ratios de combien il gagne dans chaque corps qui travaille dans son emploi qu'il y a par ailleurs, il contribue ça en caisse, à la fin on distribue entre les participants, peut-être on réussira à inciter des gens à y participer. Parce que même si on réussit à faire venir des paysans et des paysans dans ces genres d'organes de gouvernance, on reproduit les mêmes systèmes au sein du monde paysan. Quand il y a des paysans et des paysans qui participent, c'est majoritairement des néo-ruraux installés sur des productions plutôt rentables avec des modèles économiques qui tournent. On est encore très loin de réussir à faire venir des personnes qui n'ont soit pas d'études, soit qui ont des formations agricoles de base, qui ont dans des modèles économiques ou des fermes qui tournent à peine. Genre, si on veut vraiment, et on a besoin que ces gens commencent à participer à la gouvernance d'une transformation sociale qui peut représenter la SSA, il faut qu'on intègre tout ça au système des réunions et à la planification.
Merci beaucoup.
Je peux?
Ouais,
troisième question.
Oui, en fait, là, toutes les présentations, elles parlent du conventionnement, mais on est d'accord, et c'était dans votre présentation hier aussi, Manuel, que la notion de conventionnement, ici, elle est plus métaphorique qu'autre chose, et c'est oui. Pas du conventionnement au sens du droit de la sécurité sociale en France. Donc ma question pour vous, c'est transversale, c'est en fait quelle forme de régulation économique émerge à travers ces pratiques-là de conventionnement tel qu'il est pratiqué dans les expérimentations locales de SSA. Est-ce que c'est Sébastien, tu as utilisé le terme de régulation marchande, est-ce que c'est de la régulation marchande, moi j'ai entendu ça, d'intermédiation marchande, voilà, est-ce que ça en est ou pas, enfin voilà.
Non.
Est-ce qu'il y a l'un ou l'une d'entre vous qui a une réponse ou qui souhaite exprimer un point de vue vis-à-vis de ce qui a été dit?
Moi, je peux répondre vite fait sur Monéco. Après, je passerai.
Je vais répondre très rapidement sur Monéco. En fait,
À l'heure actuelle, là, sur la quinzaine de commerces ou de points de vente ou de producteurs qui sont conventionnés, en fait, il y en avait, je crois, c'est à peine un quart qui était déjà dans le réseau. Donc c'est ce qui explique qu'il y a une contrainte un peu supplémentaire, c'est qu'il faut aussi les acclimater à ce que c'est. Et en fait, c'est quand même intéressant de savoir que la personne qui est sur la monnaie locale, en fait, a un petit, donc elle est dédiée à l'alimentation. Elle a une expérience de ce que c'est aussi d'avoir d'aller, j'allais dire, alors c'est pas du démarchage, mais en tout cas elle sait expliquer les contraintes, les coûts, et c'est hyper précieux parce qu'en fait il y avait plein d'attentes, il y a eu des réunions avec des producteurs, notamment avec le GAB du département, pour expliquer en fait ce que c'est, ce que ça va apporter, les contraintes techniques, et enfin te lever plein de freins. Et en fait c'est important parce que s'il n'y a pas ça, derrière, effectivement, ça pouvait être perçu comme une contrainte. Mais on est quasiment sur deux tiers, trois quarts, où en gros, il y a de la sensibilisation. Et en fait, c'est aujourd'hui, je réfléchis, je crois que pour le moment, il n'y a aucun point de vente ou producteur qui a refusé de rentrer dans l'expérimentation parce que c'était trop contraignant. Et pour le comité local, ils ne savent pas du tout, en fait, si... on a ce commerce-là, qui nous intéresse, ou ce producteur-là. Et du coup, c'est la personne de Moneco qui va aller voir, qui leur explique un peu aussi, une fois qu'ils sont passés sous le filtre de la grille de conventionnement. Pour l'instant, il n'y a pas de refus. Ça viendra sûrement, peut-être, mais pour l'instant, sur la quinzaine, il n'y en a pas. Voilà.
Je vais répondre rapidement sur l'intervention du monsieur sur les reproductions d'inégalités. En fait, merci pour votre intervention. Enfin, je pense qu'on est à peu près toutes et tous d'accord sur ce constat. C'est des choses dans les premières phases de recherche qui sont aussi identifiées, je pense. En tout cas, qu'on voit. Ce qu'il y a à voir aussi, des inégalités en fait sur les coûts, la participation. Des opportunités de participation politique en fonction des différents acteurs, des choses qui se reproduisent. Peut-être aussi à mettre en perspective sur... pour moi, les expérimentations SSA, elles s'inscrivent dans une histoire, dans la littérature qu'on appelle des systèmes alimentaires alternatifs ou des réseaux alimentaires alternatifs, où il y a une forme de cumulativité, où partant de ça, il y a un certain nombre de choses qui sont un peu résolues, un peu mieux, par exemple, je pense. Au niveau en termes d'inclusivité, etc. Mais c'est sûr qu'il reste beaucoup de routes. Je pense aussi, Alexia le rappelait hier, c'est des dynamiques qui sont très jeunes, depuis les premières expérimentations en dur, c'est 2022, c'est il y a 3 ans. Donc là, je pense qu'on est sur une première phase, on commence à avoir du recul sur ce qui marche moins bien, et qu'il y a des choses qui ne sont pas encore visibles, mais en termes d'action, pour pallier à ces problématiques-là, notamment par exemple, je pense à Montpellier avec une initiative de caisse d'investissement qui cherche à remettre au centre les professionnels en termes de gouvernance, de pouvoir politique. Et sur la question d'Antoine, sur l'intermédiation, les pistes sur lesquelles je pars, c'est de voir le rapprocher le conventionnement effectivement plus d'une forme de labellisation, moi qui me fait beaucoup penser au système participatif de garantie. Et puis dans mon labo, il y a Sylvain Lemeyer qui travaille dessus. Même si là, donc on ne sait pas dans les systèmes participatifs de garantie type nature et progrès, donc c'est par les pairs, les producteurs, productrices eux-mêmes qui s'auto-évaluent, alors que là, ça fait intervenir plus directement des mangeurs, même si à Toulouse il y a une velléité en fait des deux côtés d'avoir une participation des professionnels à cette activité là, même si ça va poser des questions aussi de conflits d'intérêts, mais qui peuvent être qui se posent dans les SPG, qui peuvent être régulés. Si on part sur une interprétation en termes de labellisation, une singularité du conventionnement qui est pour moi une singularité des expérimentations SSA dans les systèmes alimentaires alternatifs, sur leurs promesses de différence, pour reprendre l'analyse de Ronan Levely, qui est peut-être sur la dimension systémique, la systémicité qui est très poussée. Plusieurs objectifs, une seule action, plusieurs objectifs, on cherche à travailler quelque chose de très, j'ai pas le terme là, mais voilà, une seule action, plusieurs impacts, mais dans le détail, on a des tensions. Et donc voilà, quelque chose qui retrouve au niveau des grilles de conventionnement, en fait, où on a la bio, mais des choses qui sont liées à la gouvernance, à l'accessibilité géographique, etc. Voilà, donc c'est un peu les pistes sur lesquelles je pars, et sachant aussi que ben, c'est des choses en construction, moi je pense, voilà, on l'a un peu évoqué hier, sur des tensions entre le formel et l'informel, des choses qu'on essaie de fixer dans le marbre en termes de règles, mais encore des places... de la confiance, de l'interpersonnel, ok, je connais ce producteur-là, ce serait bien, ouais, il n'est pas labellisé, mais c'est pratique. Enfin voilà, et donc je pense y a encore des choses qui sont vraiment pas, enfin qui sont pas pleinement stabilisées, qui vont s'explorer encore dans les pratiques de conventionnement.
Ouais, juste un mot sur, en effet, c'est la remarque qui a été faite sur la place des producteuristes au sein des expérimentations. Moi, ça me fait écho à ce que tu as commencé en introduisant l'atelier, Manuel, en disant que ce qui t'avait plu, c'était que ces expérimentations et ce projet, ils se voulaient comme pour remplacer et non pas d'être quelque chose d'alternatif qui serait comme une niche. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, au sein des expés, c'est un peu la question qui se pose. Si on veut être transformative, ça pose des questions démocratiques fortes. Et écologisation ou pas, finalement uniquement enjeu écologique, pour moi, ça pose des questions relationnelles très fortes avec de l'environnement, du non-humain, mais au sein de cet environnement-là aussi, entre humains. Et du coup, est-ce que cette transformation opérée, les formes que ça prend, elles sont justes et justes pour qui ? Entre voilà, des enjeux humains, enfin des enjeux non humains, environnementaux, mais aussi des non humains, incluant les producteurs et les productrices. Et il me semble qu'aujourd'hui, au sein des expérimentations, en tout cas parmi les travaux de recherche qui sont faits, cette question de l'implication notamment des producteurs et des productrices, et non seulement des publics dits mangeurs et mangeuses, elle est de plus en plus portée. Ton postdoc, c'en est l'incarnation la plus. La plus évidente, voilà, il y avait le stage de Clémence Potel aussi, en tout cas au sein de l'expérimentation girondine. J'imagine que voilà, il y a un souci, il y a un enjeu qui est dit et qui il me semble commence à être pris en charge au sein des expérimentations, mais ça plus au cas par cas, quoi.
Un petit mot de la fin, je vais rentrer les paroles si tu veux. je voulais rebondir parce qu'il y a des choses qui ont été dites et qui se lient à mon sens, notamment quand tu posais la question, Manuel, de la dimension de labellisation et de dire que les caisses de l'alimentation, c'est pas la SSA. En fait, je me dis qu'on parle beaucoup du risque de, par exemple, des discours un peu normatifs sur l'alimentation durable. Des fois, je me questionne un peu sur les normes qu'on véhicule déjà dans qu'est-ce que c'est une bonne caisse ou qu'est-ce que c'est pas, enfin, qu'est-ce que ce n'est pas, justement. Et. Je trouve qu'il y a des oubliés un peu, alors peut-être que voilà, ça peut être le bénéfice justement de notre posture un peu lointaine, nous, des initiatives, mais on parle assez peu de la précarité agricole, que 16% des agriculteurs vivent sous le seuil de pauvreté, et que la démocratie participative sur un sujet, c'est la voix de tous les acteurs du sujet en fait. Et donc poser la question de est-ce que les CSA intègrent les producteurs et productrices comme des fournisseurs ou comme des acteurs du système alimentaire qui doivent être engagés dans les discussions démocratiques et donc avoir aussi un pouvoir de décision sur les règles de conventionnement, etc. Je trouve qu'il y a des questions comme ça qu'il faudrait... alors je vais être un peu provoque, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu cette figure un peu puriste du citoyen, du mangeur et de l'habitant, habitante, mangeuse, citoyenne, mais le producteur et productrice et mangeur, mangeuse, habitant, habitante et citoyen, citoyenne. Et donc je trouve qu'il y a des choses comme ça peut-être à re-questionner dans qui sont les acteurs des SSA et quelles sont les valeurs et du coup quels sont les récits communs qu'ils ont envie de construire à travers ces initiatives.
Merci. On a d'abord une réaction dans le panel et puis après on peut prendre peut-être une dernière question avant d'aller manger. S'il y en a une. Sinon, à table.
Ouais, juste une rapide réaction, parce que des trucs que j'observe, mais voilà, je vous les livre, c'est assez intéressant. Du coup, je vais rebondir sur la question d'Antoine et sur la question du jeune homme juste avant. Les formes de régulation, Je suis assez étonné, mais pas forcément surpris, là, en ce moment, dans le conventionnement, puisque, du coup, je vous ai dit que c'était très, très lié, quand même, à deux structures paysannes. Aujourd'hui, il y a du bouche à oreille qui est en train de se faire. Il y a un recrutement, en fait, et une discussion en interne au sein de ces réseaux. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, pour l'instant, il y a deux producteurs qui ont été conventionnés sur un marché, mais qu'ils en ont parlé à d'autres. Et que du coup, c'est remonté aux oreilles du comité habitant qui se sont dit ah bah oui, si au marché on peut avoir 4, 5, 6 producteurs différents, nous ça nous va, c'est sur le même endroit. Donc il y a des effets comme ça un peu induits. Et ça pose la question effectivement de la régulation en interne et comment ça va gérer la coopération ou la concurrence. Mais pour l'instant, on est plutôt dans de la coopération interne au réseau. Hein. Donc je trouvais assez intéressant de se dire qu'au sein des structures agricoles, en fait, ils ne voient pas ça comme des trucs concurrents. Ils disent bah en fait. Nous, on est sur le marché, à la limite, on peut être conventionné aussi. Et donc, il y a un esprit collectif qui est assez intéressant. Je ne sais pas si c'est propre aux structures et si ça durera, mais voilà, c'est aussi pour donner une petite touche d'optimisme. Et puis, la deuxième, effectivement, sur la reproduction des inégalités, c'est assez intéressant. Je crois qu'il faut quand même faire attention. Là, on a beaucoup d'expérimentations qui sont urbaines. Donc, effectivement, bah, il n'y a pas trop d'agriculteurs qui habitent dans le cœur des métropoles, donc ils ne sont pas dans le comité habitant. Je suis un autre comité habitant rural. Il y a deux agriculteurs dans le comité habitant de 15. Et ben, ça va sûrement jouer un petit peu. En tout cas, il va y avoir des effets, puisqu'ils ne seront pas conventionnés, mais en tout cas, ils vont parler et porter une parole agricole, qui n'est pas celle, effectivement, peut-être la plus représentative. Mais en tout cas, je pense qu'ils seront présents. Ce serait intéressant, je pense, d'entendre et de regarder aussi ce qui se passe peut-être dans des caisses plus rurales. Peut-être que la configuration des lieux, des systèmes de conventionnement sera un peu différente. Et juste pour nuancer un tout petit peu, aujourd'hui, ce qui est convenu, en tout cas ce que j'observe ici sur Nantes, mais je pense que c'est pareil ailleurs, c'est des paysans ou des commerces qui sont, ceux qui sont conventionnés s'en sortent plutôt bien, ils sont sur des modèles économiquement, pas que. Aujourd'hui, c'est une vraie bouffée d'oxygène quand même, et en tout cas, il y a aussi maintenir des systèmes. Il y a aussi consolider des systèmes, et ça, je crois que c'est une volonté aussi des habitants de se dire bah, ces agriculteurs-là, ils s'en sortent pas trop mal, ok, mais en même temps, nous, on vient apporter aussi un confort, ou en tout cas, on vient consolider des modèles. Alors, effectivement, ça sauve pas ceux qui sont peut-être en situation de très grande précarité agricole, mais il y en a où ils sont sur des équilibres quand même économiques où c'est un peu tendu, et le fait d'avoir effectivement 5% de chiffre d'affaires en plus. Bah, ou 5 clients, comme on a entendu hier, ça peut leur permettre quand même d'avoir une petite visibilité. Donc voilà, c'est juste pour pondérer les micro-effets.
Merci beaucoup. Il y a une question encore, et après on va fermer. Ouais.
Enfin, c'est juste une remarque, donc peut-être la question pourra quand même avoir lieu après. Nous on travaille sur une caisse d'alimentation à Lézignan avec Thomas, qui est plutôt en zone rurale. Et effectivement, au sein de la caisse, il y a 6 paysans, paysannes. D'un comité d'habitants, et effectivement ça a une influence. Nous on a fait le choix aussi de, dès le départ, leur donner un peu la parole pour parler de leur précarité alimentaire et leur précarité en tant que paysans, paysannes, et parler de leurs enjeux, parler du revenu paysan. Donc c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les considérations de ce comité et qui prennent place dans le conventionnement. Là ils sont en construction du conventionnement aussi, dans un groupe de travail. Et dans ce groupe de travail, il y a pas mal de paysans, paysannes qui l'ont rejoint parce qu'ils ont à cœur de pouvoir compter aussi dans ces grilles et dans ces fonctionnements. Voilà, donc c'est juste pour faire cette remarque.
Je pense qu'on va s'arrêter là. Vous avez des têtes qui respirent l'appétit. On se restaure et on reprend à 14h.